Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Bonjour Daniel Mann, aujourd'hui que nous recevons.
Bonjour Anne.
Donc Daniel, présidente de l'AED, l'aide aux enfants démunis, c'est
oui,
bien ça?
Tout à fait ça.
Un engagement pour l'enfance depuis de longues années, c'est ça?
Oui.
Depuis toujours,
oui, on peut dire ça comme ça, puisque même petit, j'étais déjà dans le partage. Et puis ensuite, je suis devenue enseignante, et en étant enseignante, on est forcément dans le partage avec l'enfant. Et puis j'ai aussi déjà vu des cas difficiles aussi pendant que j'étais enseignante, 40 ans quand même de carrière. Donc ça m'a permis de suivre et d'évoluer dans ce monde qui n'est pas toujours facile, le monde de l'enfance qui est passionnant, mais aussi où on rencontre des choses très difficiles.
Et les premières fois où tu as été confrontée à la violence, c'était...
La première fois, c'est un de mes premiers postes, où j'étais chargée d'école en Loire-Atlantique. Un petit enfant qui était malmené par la nounou, qui le gardait puisque la maman était morte en couche. Et le papa était obligé de placer le petit. C'était trois enfants et j'ai été confrontée dans un de mes premiers postes à un enfant de maternelle.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on constate ça? C'est vrai qu'on a vu des émissions, j'ai vu récemment, où ça se renvoie la balle, il y a une lenteur, c'est difficile à dénoncer. Comment
on... Ben là, la lenteur, elle n'a pas été... J'ai pris le taureau par les cornes, j'étais jeune, hein, j'avais juste 20 ans, 21 ans. Et ben, j'ai fait comme si c'était mon petit frère ou mon petit, je ne sais pas, ça a été dans la spontanéité totale. Et j'ai interpellé l'assistante sociale. J'ai eu la chance de tomber sur une assistante sociale de qualité, le papa qui a été très présent. Bien entendu, ça ne s'est pas bien passé avec la marâtre, mais ce n'était pas grave. Ces trois enfants qui étaient dans trois familles différentes, j'ai réussi à les faire mettre tous les trois dans la même famille. J'étais très fière de moi parce que je venais juste de commencer. Voilà. Il m'a interpellée par la violence, il voulait toujours qu'on s'occupe de lui. Alors je me suis occupée de lui tout en étant dans une certaine rigueur. Mais c'est ce qu'il demandait, à la fois amour et attention et écoute. Ce qui n'a pas changé d'ailleurs autour de l'enfance, c'est toujours valable.
De là à l'association, du coup, tu as estimé utile de le formaliser pour mobiliser les énergies sur la problématique?
Oui, tout à fait. Bon, d'abord, cette association, elle est née d'un drame personnel dont je me devais... quelque part de rendre hommage à ma fille, de continuer un peu ce qu'elle avait commencé elle sur le terrain de guerre civile et de continuer de m'occuper des enfants. Donc ça a été un non-stop voilà, jusqu'à aujourd'hui où ça fait, l'association a 21 ans.
Avec de nombreux engagements, je crois. Hein. Tu travailles énormément aussi par rapport aux populations scolaires pour les mettre un peu en vigilance par rapport aux problématiques de violence.
Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on s'axe tout en étant dans beaucoup de pays où on travaille surtout sur la scolarité, la santé et puis aussi l'état civil. Mais quand on peut ici en France intervenir sur du terrain... Il est important, quelque part, d'aller près des enfants, de leur parler, de les écouter, mais aussi d'échanger. Et très tôt, je crois que c'est très tôt qu'il faut parler avec les enfants, de leurs droits, certes, mais aussi des soucis, de la souffrance qu'ils peuvent rencontrer, parce qu'ils parlent assez facilement quand on sait leur parler, on les interpelle, ils ont besoin.
C'est-à-dire qu'on peut sortir du joug de l'autorité parentale, entre guillemets, pour, en tant qu'être humain, même si on est un enfant mineur, on a quand même le droit, à un moment donné, de dénoncer des actes violents.
C'est un de leurs droits fondamentaux. Hein.
Parce qu'il y a des années en arrière, c'était pas ça. Hein.
Voilà. Mais on a la chance quand même, si on pense que les choses n'évoluent pas suffisamment rapidement, qu'il y a une convention qui est née il y a 30 ans, déjà 30 ans, où cette convention qui a été ratifiée par plein de pays, tous les pays sauf les États-Unis, qui eux ont des problématiques par rapport à leurs États. Cette convention, même si elle n'a pas vraiment avancé comme on le souhaiterait aussi vite, elle a le mérite d'exister.
Oui.
Et ça permet aux enfants d'avoir des droits fondamentaux. Je leur dis toujours, vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Mais un des droits fondamentaux, c'est d'avoir la parole, de s'exprimer. Et donc, puisqu'on peut s'exprimer, en général, ils savent bien faire, mais s'exprimer avec les mots adéquats et trouver quelqu'un qui les entend et qui vont parler avec eux. Parce qu'un enfant peut très bien venir chez vous, vers vous très très facilement pour se confier. Et je crois que c'est important.
À partir de quel âge considère-t-on que la parole d'un enfant est entendable ? Elle peut être recueillie ? Parce que malheureusement, il y a des enfants très très jeunes qui sont victimes. Et...
Ben, dès qu'ils sont en capacité de pouvoir échanger, il y a des enfants qui très tôt peuvent très bien s'exprimer et parler. Puis il n'y a pas que les mots, il y a les regards, il y a les gestes. Dans les centres médicaux judiciaires, on a une table transparente à Carpentras, par exemple, où sous la table, on peut voir que des gestes peuvent aussi exprimer certaines choses.
Alors revenons sur cette unité justement parce que c'est quelque chose qui a été créé récemment et dont toutes les villes ne disposent pas forcément.
Non, elle n'est pas. Ça fait quelques années qu'elle existe grâce à un procureur qui était formidable, qui a eu un accident de voiture et qui est parti. Mais grâce à lui, on a pu faire cette unité médico-judiciaire qui d'ailleurs, toutes les unités médico-judiciaires à partir de maintenant changeront de nom. J'ai oublié le nom, mais ça revient toujours au même, un plus, c'est-à-dire qu'un peu plus d'écoute. Et notre secrétaire d'État aujourd'hui veut qu'il y ait des UMJ dans toutes les villes de France. Ce qui ne sera pas forcément réalisable facilement parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes villes qui n'en ont pas. On a la chance d'en avoir une à Carpentras, mais dans la région PACA, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Carpentras, il y a Aix, il y a Martigues, mais quand on pense qu'il n'y en a pas à Marseille.
D'accord. Donc on va revenir sur le fonctionnement de ces UMJ. On va faire une petite pause musicale et on reprendra sur le fonctionnement de ces fameuses unités.
Si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable.
Elle avait ce regard qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh.
On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du rimmel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et commet l'irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait que être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait que être aimée. Oh, 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 oh. Voilà
Donc après cette jolie chanson de soprano qui évoque ce difficile sujet du harcèlement, on se retrouve donc Danielle Mann, donc je rappelle, qui est présidente de AED, l'aide aux enfants démunis. Donc vous nous expliquiez votre combat qui dure depuis des années hein, contre la violence aux enfants, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais là on parle bien des violences des enfants, que subissent les enfants. Et la dernière chose qu'on évoquait, c'était ces fameuses UMJ, hein, c'est des unités
médico-judiciaires. Qui donc changeront de nom bientôt, mais dont le contenu sera toujours le même.
Donc la vocation, c'est de réunir des métiers différents, une pluridisciplinarité professionnelle, pour entendre l'enfant, c'est bien
oui,
ça ?
Tout à fait, pour bien dire que la parole de l'enfant a une valeur, qu'il ne faut pas la négliger. Alors on sait bien qu'il y a les affibulations et que quelquefois les paroles d'enfants ont mené quelquefois à des erreurs, c'est certes, c'est vrai, mais l'avantage de ces unités, c'est que ils sont entourés de gens de compétences qui ont été formés, parce que le grand problème, c'est la formation des gens qui sont à l'écoute, et là on a donc des gendarmes qui sont formés, on a des psychologues qui sont là, mais l'enregistrement de ces enfants est pris par des gendarmes, parce qu'il faut qu'il y ait la loi et l'autorisation du procureur. L'avantage de ces UMJ, c'est un endroit où les enfants peuvent parler et sont aussi filmés, c'est-à-dire que ça peut servir de preuve lors d'un témoignage absolument important ou un appui que l'avocat aura lors d'un jugement ou d'un procès. C'est-à-dire que ça a une valeur pénale.
D'accord, c'est pour ça aussi qu'on analyse aussi le comportement. Il n'y a pas que les paroles de l'enfant. Et tu disais justement que le choix qui peut sembler anodin mais qui ne l'est pas du tout, d'avoir une table transparente.
Oui, nous on a choisi, parce que c'est moi qui ai choisi le matériau, donc on m'a dit de préférence une plate transparente. Et c'est vrai que sous la table transparente, l'enfant peut avoir des gestes qui répètent quelquefois ce qu'on a pu lui faire. Donc c'est très intéressant, sans dire de mots, juste par les gestes et des fois le regard aussi, qui est pour moi extrêmement important.
Autour de cette table, on trouve donc des psychologues,
Alors, le jour de l'enregistrement, quand on enregistre, il n'y a que des gendarmes qui sont avec lui. Autrement, d'accord, dans la partie qui est enregistrement, il y a aussi des gendarmes. Et après, il y a une discussion avec le psychologue. Mais c'est d'abord la loi qui a priorité sur le reste. Après, les psychologues interviennent, eux aussi formés, pour pouvoir poser des questions à l'enfant.
C'est comme dans toutes les procédures, d'abord saisir la police, de toute façon, pour faire
d'abord
constater.
Saisir, la première personne, c'est le procureur de la République. Sans son appui, sans son accord, les choses ne peuvent pas se faire. Et quelquefois, on a une réaction très vive et très rapide. Et moi, je pense que des fois aussi, il y a cette lenteur judiciaire ou administrative qui fait que des cas de violence comme ça prennent du temps, et on perdre du temps, c'est des fois perdre une vie.
Oui, parce que c'est des situations d'urgence par définition qui supportent pas la longueur des procédures.
Tout à fait, mais c'est difficile à mettre en place, et quelque part tout le monde ne réagit pas de la même façon, hein, certes, mais c'est très très important qu'on puisse prendre des décisions assez rapides. Des fois c'est une question de survie. Hein.
Oui, d'éloigner l'enfant de l'auteur des faits, ne serait-ce que ça. Hein.
Tout à fait, parce qu'on parle de violence sous toutes ses formes, hein, quelque soit la violence physique, et aussi il ne faut pas oublier la violence psychologique, parce que les mots ont souvent plus de poids que les actes, même si être battu n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais souvent les mots qui sont prononcés sont souvent encore plus durs et c'est, on a beaucoup plus de mal à les oublier.
Oui, ça laisse des traces indélébiles.
Tout à fait.
On est dans des choses qui sont malheureusement comparables à ce que subissent les femmes. Quand on dit les violences faites aux femmes, je veux dire par rapport aux enfants, c'est un petit peu les mêmes problématiques. Hein. Il y a des violences physiques, il y a des violences morales.
Justement, moi, puisque je suis aussi femme solidaire, je trouve que quelque part, il est important de ne pas dissocier. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, grâce, va-t-on dire, au Grenelle des violences faites aux femmes, on s'est penché peut-être un peu plus sur le berceau des enfants et que quelque part certains changements vont se faire, ne serait-ce que dans certaines lois on ne considérait pas que l'enfant était victime quand il assistait à des violences conjugales. Aujourd'hui l'enfant témoin il va être considéré aussi comme un enfant victime. On a fait énormément on a beaucoup d'avancées ces derniers temps grâce à tout ce travail qui a été fait par l'État, hein, certes, mais avec des associations qui travaillent sur cette problématique, entre autres la Voix de l'Enfant, qui, elle, est vraiment penchée sur la problématique de la violence faite aux enfants.
Et qui fait remonter toutes ces réalités de terrain pour faire évoluer la loi, en fait.
Tout à fait. Il faut absolument que la loi avance et surtout ne pas négliger ces enfants témoins, parce que souvent ils ont les mêmes souffrances que celles qui subissent les coups. Et puis il y a on reproduit quelquefois aussi avec le temps, un peu plus tard, où on a l'irrespect par exemple qui s'installe, la violence vis-à-vis des camarades et autres. Donc il faut absolument pas négliger ces enfants qui sont témoins de violence. Et puis il y a tous ceux qui sont témoins de violence, il y a tous ceux qui assistent en direct à la mort de leur mère, hein, souvent. Oui. C'est aussi grave, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui une femme sur trois meurt tous les jours, une femme tous les trois jours meurt, et on dit même tous les deux jours aujourd'hui, hélas, mais on dit aussi qu'un enfant tous les cinq jours.
C'est donc énorme.
C'est énorme, et c'est souvent lié justement les uns avec les autres. Donc on fait un rapprochement, et moi je pense qu'il ne faut pas dissocier et qu'il faut être très 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 vigilant sur il faudrait surtout que administrativement parlant, judiciairement parlant, on puisse tout de suite retirer l'enfant du milieu. Alors il y a toujours une problématique de retirer l'enfant du milieu familial, mais il y a un moment donné où il y a urgence.
Oui, il est victime, il faut l'éloigner du danger, hein.
Tout à fait.
C'est ça qu'il faut mettre en évidence.
Après on peut considérer ça comme une non-assistance, dans la mesure où, mais après il est difficile de placer ses enfants dans des foyers d'accueil où ils sont pas pléthores. Les familles d'accueil aujourd'hui sont beaucoup moins nombreuses qu'avant, donc il y a tout un travail à reconstruire, à améliorer sur justement la protection de ces enfants qu'il faut absolument éloigner de la grande détresse.
Bien. Eh bien, tout à l'heure, on va reprendre, on va aborder une autre forme de violence, parce que je pense que le harcèlement et tout ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est encore une autre forme de violence, qui n'est pas forcément au sein même de la famille. Donc on va faire une petite pause et on va en reparler juste après.
D'accord.
C'était le mois de février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Jason. Ce matin-là, il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio. Et tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sera un berceau. Je ne comprenais pas que dans son cœur y a...
vivace, et c'est bien celle que j'aime le mieux. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. De quoi grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Il est ton sourire, ton regard, quand tu te levais le matin. Avec l'amour et tout l'espoir, j'avais quand tu me tenais la main.
Nous retrouvons Danielle Mann, présidente de AED, Aide aux enfants démunis. Donc on a évoqué tous les problèmes de violence physique, verbale, mentale, mais il y a aussi le harcèlement, harcèlement à l'école, harcèlement sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement l'actualité récemment nous a montré que c'était allé jusqu'au suicide pour une jeune fille.
Oui, c'était juste à côté, c'est chez nous que ça s'est passé.
C'est terrible, oui.
Donc ça touche tout le monde et puis ça ne se passe pas qu'ailleurs, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc je pense qu'il faut être aussi très vigilant sur ce harcèlement à l'école, parce que il y a un joli téléfilm qui a été fait, si je puis dire joli, tout au moins bien fait, sur Marion a toujours 13 ans, où on explique vraiment la montée, les étapes du harcèlement, parce que quelque part, au départ, ça, pour eux, c'est un jeu. Ils disent toujours c'est un jeu, je jouais.
C'est pas grave, personne ne voit. En fait, c'est ça aussi le problème. Hein. Les adultes, quand ils sont face à l'événement dramatique, on n'a rien vu. En fait.
C'est surtout ça que les jeunes n'en parlent pas parce que quelque part ils se referment un peu, ils se replient et ils n'en parlent pas parce que ils savent pas comment en parler. Peut-être aussi
par fierté, pour vouloir régler sans faire intervenir des adultes. Peut-être.
Oui, mais je crois aussi par manque d'échanges, même si on a des parents très ouverts, on a peut-être honte aussi quelque part de ce qui arrive. Et moi, je voulais dire surtout que je suis très en colère contre les harceleurs parce que c'est jamais un être seul. Ils sont toujours en groupe, comme une meute. On s'acharne sur un seul être.
Avec un leader et des suiveurs, parce qu'en fait, l'initiative, c'est souvent un seul, mais les autres suivent. Ils ne sont pas forcément impliqués au même temps. De la même façon, mais les conséquences sont terribles.
Oui, mais seulement ils osent pas dire non, parce que quelque part, on dit pas non au leader, certes, et puis on a peur d'être exclu du groupe.
Pour pas être exclu du groupe, voilà.
C'est surtout ça qui fait que on est en groupe. Je compare ça vraiment à une meute, et je trouve ça triste. Et l'autre meute, qui est beaucoup plus grave à mes yeux aussi, c'est les réseaux sociaux. Je pense que, bien entendu, on a fait beaucoup de progrès avec ces réseaux sociaux, mais je trouve aussi qu'on fait beaucoup de dégâts et qu'aujourd'hui ça devrait être beaucoup plus contrôlé et pas un accès aussi facile. C'est-à-dire tous ceux qui montrent des photos ou autres, je pense qu'on devrait faire une recherche pour les retrouver. C'est pas normal.
Et on dirait qu'on n'a pas expliqué le mode d'emploi parce que là c'était pas fait pour ça, les réseaux sociaux. Il y a une utilisation qui est faite par les adolescents qui...
Il y a une déviance quelque part.
Voilà.
Il y a une déviance des choses et puis on prend aussi, on le considère quelquefois. Souvent, quand on leur parle ou qu'ils sont, ils disent que mais c'est pas grave, c'est un jeu, c'est comme ça. Mais pourquoi elle a pris comme ça? Ils s'imaginent pas le poids des paroles, le poids des images, parce que souvent dans les réseaux, sur les Facebook, c'est des images qui sont très dures. Et puis ce qui est dans l'intimité part dans le partage. On le diffuse alors que ça devrait rester quelque chose qui est intime. Et ça, c'est encore plus grave, c'est-à-dire où à ce moment-là on n'a plus d'intimité, il n'y a plus de d'amabilité, d'empathie, d'amour aussi quelque part, parce que c'est manquer d'amour que de vouloir divulguer des choses qui sont personnelles. Et je crois que les jeunes ont tendance à vouloir échanger sur des choses anodines, et quelque part ils sont embarqués malgré eux. Je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai du mal à expliquer, et je crois qu'il faudrait justement, enfin moi je pense qu'il faudrait en parler plus souvent, qu'il y a d'ailleurs je pense que depuis le dernier Grenelle des violences faites aux femmes, il a été dit que, et le ministre de l'Éducation nationale dit qu'il faudra en parler beaucoup plus dans les écoles aujourd'hui. Quelque part, ça serait des enseignants qui seraient plus formés à ce genre de choses, plus à l'écoute, et qu'on explique un peu plus
les conséquences. Je pense qu'ils ont l'impression que c'est virtuel, parce que ce sont des photos. C'est pas leur vrai corps, leurs vraies intentions qui sont mises en scène, c'est via des photos. Il y a toujours ce virtuel qui semble anodin pour eux.
Ah, tout à fait. C'est comme si on jouait, quoi. On jouait, mais quand on a fini un jeu, on arrête et on prend une autre partie. Mais là, non, c'est pas possible de l'arrêter puisque ça fait des ravages. Et dernièrement, on a montré jusqu'où c'est allé, puisque quand même, arriver à 15 ans à mettre fin à ses jours en utilisant une pendaison, c'est quelque chose de terrible, je trouve. Et je sais pas si ceux qui ont mené à ce geste ont conscience, je voudrais savoir. S'ils
ont
conscience.
C'est qu'ils sont cachés derrière des écrans et qu'il y a ça aussi. Donc c'est anonymat.
Cet anonymat qui, je trouve que c'est quand même une grande...
C'est terrible. Hein,
c'est terrible. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plus en parler. Moi, personnellement, je parle beaucoup des droits des enfants et éventuellement de ce qu'ils doivent... où ils doivent faire attention à certaines choses en employant des mots simples, parce que moi, j'interviens surtout dans les écoles primaires, voire maternelles, mais il m'est arrivé aussi d'intervenir aussi dans les collèges et lycées. Donc là, d'ailleurs, on m'interpelle dans des lycées. Et je crois que c'est important de venir avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, puisqu'il a été un avocat qui est spécialisé par exemple sur tout ce qui est souffrance faite aux enfants, maltraitance, harcèlement et autres. Je pense qu'il faut voir lui permettre d'expliquer vers où ça mène, où il faut s'arrêter, ce qu'il ne faut pas faire et ce que ça produit. Et je crois qu'il faut trouver les mots justes, mais il faut aussi en parler.
Oui, je pense que les expériences, bon, pour ne citer que l'émission, ça commence aujourd'hui, je crois, où on a vu Maître Gégère, hein, qu'on connaît bien, sur
tout
la place carpentracienne.
Mmh.
Et une des dernières émissions, justement, c'était des témoignages.
Très fort.
Une jeune fille qui avait été confrontée au harcèlement sur Internet et qui a vu sa souffrance s'arrêter parce que, comme par hasard, les parents ont déménagé. Donc, du coup, elle a pu prendre de la distance par rapport, parce que c'était quand même lié à la vie dans son établissement scolaire.
Oui, mais ça suffit pas des fois, ça suffit pas de déménager. Quelque part, elle a été entourée, je crois qu'elle a.
Oui.
Ses parents ont été très bienveillants, ont été très à l'écoute. Et je pense que de passer à cette émission, c'est très courageux. Mais je trouve que c'est aussi très important parce que elle a réussi à aller à dépasser. Ça reste marqué à vie.
Ça reste marqué à vie parce que la jeune fille ne va plus à l'école, elle suit les cours à domicile quand même. Donc ça veut dire qu'elle est à jamais éloignée du milieu scolaire. Du fait de ce qui lui est arrivé quand même.
Mais elle dit qu'elle a quand même des amis, dans cette nouvelle vie. Donc elle a quand même une vie sociale à travers ses amis, même si elle reste chez elle à la maison. Et puis je pense qu'elle va se construire et son témoignage est clair, précis, avec des mots vrais. Et je pense que c'est de tels témoignages qui doivent être importants. Elle explique la grande souffrance et je crois que c'est ce qu'il faut absolument entendre.
Et puis le regard du juriste aussi, qui rappelle à chaque fois ce qu'il faut essayer de faire, hein, dans la mesure du possible.
Oui,
hein,
je crois que
ce qui ressort le plus souvent, c'est d'en parler. Hein. Je pense que c'est
c'est surtout ça. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette société, aujourd'hui, on ne parle plus. On n'échange plus, on échange avec son appareil ou avec son ordinateur, mais on a du mal à échanger. On n'a qu'à voir des jeunes gens qui sont attablés, soi-disant en repas peut-être pour partager un bon moment.
Mais
et en fait, ils ont
chacun sur son
écran. Et ça simplifie un petit peu, ça explique un petit peu que... Écouter, et il faut aussi écouter. Et moi, je dis toujours aux enfants que quand ils perçoivent quelque chose ou qu'ils sont témoins de quelque chose, il faut le dire, surtout rompre le silence.
Eh bien, Daniel, on vous remercie. Hein. Donc, Daniel Mann, qui est donc la présidente de AED, Aide aux enfants démunis, une association qu'on a l'occasion de rencontrer souvent sur Carpentras et qui peut être de précieux conseils aussi.
Merci beaucoup.
Merci.